à nouveau sur cette question difficile de la défense des droits face à l'inflation des règles. Il y a quantité de façons pour prendre ce sujet. Et m'exprimant ici au nom de la CNCDH, j'ai pensé en parler en traitant de l'atteinte, modestement, mais de l'atteinte au droit à l'égalité et au principe de dignité par l'inflation des règles. L'accès à la justice et l'accès aux droits sont des droits fondamentaux dont la non-garantie porte atteinte de façon évidente au principe matriciel d'égale dignité des êtres humains, et le difficile accès aux droits et à la justice, vous en conviendrez, sont des sources de discrimination contre lesquelles un combat sans relâche s'impose. Il est donc une évidence, c'est celle que la double question de l'accès aux droits et de la justice concerne la CNCDH, et que la défense des droits face à l'inflation des règles rend très, très difficile, si elle n'est pas soutenue, l'accès aux droits et l'accès à la justice. L'accès aux droits est donc intimement lié au droit à l'égalité, et le non-accès aux droits et à la justice sont vraiment une atteinte forte aux règles constitutionnelles, sans parler d'un certain nombre de règles internationales. Le Conseil constitutionnel considère que l'égalité devant la loi, énoncée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et la garantie des droits requises par son article 16, ne sont pas effectifs si les citoyens ne disposent pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables. Et ces règles ne doivent pas, en outre, et c'est le Conseil constitutionnel qui le dit, présenter une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires, et l'aptitude des destinataires, même spécialistes, n'est pas souvent très grande. De cette interprétation découle l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Voilà pour l'accès au droit. Pour l'accès à la justice, s'il n'est pas également garanti pour tous, il y a une atteinte portée, je l'ai dit tout à l'heure, au principe d'égalité. Accès à la justice, on peut l'entendre au sens rigoureux, accès au procès dans le sens le plus classique, ou on peut entendre accès à la justice dans un sens plus large, c'est celui que je choisirai, en incluant les modes alternatifs de règlement des conflits qui sont souvent plus compréhensibles pour les citoyens. Et l'avocat est à l'évidence un acteur majeur et de l'accès au droit et de l'accès à la justice, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'accès au droit ou d'accès à la justice, l'inflation galopante des règles de toutes sortes à laquelle vous faisiez allusion, Monsieur le Président, tout à l'heure, et la connaissance du droit sont devenues de plus en plus difficiles. L'enchevêtrement des règles de droit interne, européen, international est un véritable facteur de complexité, comme l'est le pluralisme juridique, d'ailleurs, au sens le plus classique. Le constat est extrêmement ancien et les remèdes sont quasi inexistants. La logorrhée législative est extrêmement difficile à soigner, du moins personne ne sait comment l'entraver. Et le bavardage du droit est aujourd'hui sans limite. Je ne reviendrai pas sur les très nombreux rapports qui ont pointé ce bavardage incessant, et je ne reviendrai pas non plus sur une doctrine abondante et déjà ancienne sur la prolifération législative et réglementaire. Monsieur Delarue, d'ailleurs, est beaucoup plus au fait de cela qu'en Conseil d'État, et le Conseil d'État ayant rendu de plusieurs rapports, dont un dernier rapport cette année qui pourrait nous intéresser, mais en tout cas nous intéresse certainement le rapport de 2006 consacrée à la sécurité juridique et à la complexité du droit. Et je trouve intéressant de dire que ce rapport rappelle que c'est l'état de droit qui est en danger quand la complexité des normes devient telle que le législateur est submergé ou contourné et le citoyen égaré, désarçonné. Ce sont les expressions que l'on trouve dans ce rapport. Le doyen Carbonnier, que vous connaissez tous encore, proposait un 11e commandement. « Tu ne légiféreras que la main tremblante ». Il a été entendu à beaucoup d'égards, mais pas sur ce point. Je vais donc dire d'abord quelques mots de l'accès au droit et puis ensuite quelques mots de l'accès à la justice. J'essaye de distinguer les deux. Je crois que ce ne s'agit pas exactement de la même chose. La CNCDH, concernant l'accès au droit, dans un avis du 15 avril 2010, formule un certain nombre de mises en garde et de recommandations en réponse d'une part à la multiplicité des règles de droit et d'autre part à leur difficile intelligibilité. Arrêtons-nous d'abord sur la multiplicité des règles de droit avant de nous pencher sur leur intelligibilité. Multiplicité des règles de droit. Qu'il s'agisse des grandes sources du droit ou qu'il s'agisse aussi des petites sources du droit auxquelles il faut prêter attention. J'entends par là, par exemple, les circulaires. Il y a d'autres petites sources du droit. Le constat, et je le disais tout à l'heure, est celui d'une prolifération galopante et d'une prolifération qui est largement dictée par les événements, par les sondages même, par les faits divers. Donc une prolifération découlant immédiatement, sans beaucoup de réflexion, de ce qui se passe dans la rue, de ce que demandent des lobbies. L'élaboration à un rythme effréné de projets de loi ne s'accompagne pas de l'évaluation nécessaire du droit en vigueur, ou s'accompagne si peu de l'évaluation du droit en vigueur. Et pourtant, depuis la révision constitutionnelle de 2008, les projets de loi doivent tous être accompagnés d'une étude d'impact. Ces études devraient permettre d'évaluer la pertinence de nouvelles mesures au regard d'un état des lieux précis du droit actuel et de son application. La CNCDH ne cesse d'insister sur l'importance qu'elle attache à cette évaluation, mais comme beaucoup d'institutions consultatives, même en plaidant régulièrement sur la nécessaire évaluation, je ne peux pas dire que nous soyons, ainsi que d'autres qui plaident pour le même objectif, nous soyons vraiment entendus. En sus de l'absence d'évaluation préalable à la modification du droit en vigueur, l'application même du droit devient difficile lorsque les décrets d'application manquent, même pour des lois votées en urgence. Et puis, l'application est aussi très souvent fortement entravée par l'insuffisance des moyens humains et matériels pour la mise en œuvre des textes adoptés. On peut déjà se poser la question pour la réforme pénale relative à la lutte contre la récidive, si elle est adoptée et même amendée, ce que je souhaite, il faudra encore et toujours qu'il y ait les moyens humains et matériels nécessaires à sa mise en œuvre. On pourrait prendre de très très nombreux exemples de lois dévalorisées par le fait que les décrets d'application ne sont pas intervenus ou par le fait que les moyens n'ont jamais été donnés pour une quelconque mise en œuvre. À l'époque où j'étais parlementaire, le Premier ministre Lionel Jospin m'avait confié un rapport sur les réponses à la délinquance des mineurs et il espérait que la commission avec laquelle je travaillais rédige un projet de révision de l'ordonnance de 1945 et notre conclusion, notre rapport difficile du coup à médiatiser indiqué qu'il était sans doute tout à fait inutile de réviser l'ordonnance de 45, mais infiniment plus utile de donner les moyens de son application. La CNCDH, donc, en résumé, ne cesse de noter le manque de lisibilité et de stabilité des textes. Ainsi, je prends un exemple récent. Au lieu de suivre à propos des lanceurs d'alerte, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Guja contre Moldavie, du 12 février 2008, la France s'est lancée dans plusieurs textes, pas forcément cohérents, sur le concept de lanceur d'alerte, avec des définitions parfois différentes, entre la loi du 13 novembre 2007, la loi du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement, et d'autres définitions encore dans les lois en chantier sur la déontologie des fonctionnaires, y compris la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et même, autre définition encore en vue, dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture. Il serait de la responsabilité des pouvoirs publics de maîtriser l'inflation, en tout cas d'incrimination pénale et de circonstances aggravantes, passées au volet pénal. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que même la numérotation du code pénal souffre de cette inflation législative non maîtrisée. Ainsi, la loi du 5 août 2013, qui met en conformité le droit français avec ses engagements internationaux en transposant une des nombreuses directives que nous avons à transposer, je parle ici de la directive relative à la traite des êtres humains, et bien cette loi modifie la numérotation du code pénal. On se retrouve avec des articles 224-1-A, suivez-moi bien, et 224-1-B et 224-1-C qui précèdent l'article 224-1. Et donc, quand on cherche dans le code pénal, on a quelques difficultés auxquelles je me suis personnellement heurtée. Au-delà d'une multiplicité de textes, notre commission s'inquiète de l'absence de cohérence globale d'un certain nombre d'entre eux, et tout ceci concourt à la dégradation d'ensemble de la loi. Nous avons formulé une série de recommandations que je ne vais évidemment pas vous lire, mais qu'on peut retrouver dans nos avis qui sont tous publiés sur le site de la CNCDH. Quelques mots maintenant des petites sources du droit. Est-ce que l'accès aux petites sources du droit est aussi difficile que l'accès aux grandes sources du droit? Et je voudrais prendre l'exemple des circulaires et... Je vais d'abord prendre l'exemple des 5 circulaires d'application de la loi de 2011 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. C'est la métaphore utilisée pour parler de la burqa. La loi de 2011 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace urbain est tellement compliquée d'application qu'il a fallu 5 circulaires, et même avec 5 circulaires, les difficultés demeurent. Je prends un autre exemple, qui est celui des circulaires contradictoires de 3 ministres successifs de l'Éducation nationale sur le port du voile par les mamans ou les mères qui accompagnent des sorties scolaires. La circulaire du 18 mars 2004 sur l'application de la loi de mars 2004 sur le port des signes religieux, vous l'avez en mémoire, indique que... le principe de laïcité ne s'impose pas, ne s'applique pas aux mamans qui accompagnent les sorties scolaires parce qu'elles ne sont que des agents occasionnels du service public. Mais viennent ensuite 2 circulaires des ministres suivants, la circulaire Châtel. La circulaire Châtel je ne voudrais pas me tromper dans sa date, mais je crois qu'elle est 2007, invite les chefs d'établissement à inscrire l'interdiction du port du voile pour les mamans qui accompagnent des sorties scolaires dans le règlement intérieur de l'école. Et quant à la circulaire Payon de l'automne dernier, elle suggère, et je cite, que face à des problématiques complexes, il est nécessaire d'apporter des réponses diversifiées, de manière à avoir une action à la fois rapide et de long terme. En clair, mesdames et messieurs les directeurs d'école, faites ce que vous voulez. J'en viens maintenant à l'intelligibilité. C'est même un sujet plus sérieux que celui de la multiplicité des règles. L'intelligibilité des règles de droit. Et pour parler de l'intelligibilité des règles de droit, on peut prendre de très nombreux exemples. Je voudrais simplement parler de l'accompagnement nécessaire dans la compréhension de la règle de droit par toutes sortes d'acteurs, dont vous, les avocats, en premier lieu. Vous n'avez pas forcément toujours le temps de cet accompagnement, et ce n'est pas forcément non plus directement votre métier. Je veux saluer votre rôle, mais saluer aussi le rôle des associations. Vous savez qu'à la CNCDH, 25 ONG sont membres de notre petit parlement, ensuite un certain nombre de syndicats, puis des personnalités qualifiées. Et je mesure beaucoup mieux que je ne le mesurais avant le rôle absolument considérable d'accompagnement et d'aide à la compréhension, à l'intelligibilité des règles de droit que des associations comme ATD Quart-Monde, la CIMAD, France Terre d'Asile, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, droit d'urgence, le GISTI, et je pourrais en citer bien d'autres, jouent sur cette question précisément de l'intelligibilité des règles de droit. Et je me dis que ce travail-là n'est pas suffisamment reconnu et qu'il pourrait y avoir un meilleur partenariat, plus que de la concurrence quelquefois, entre les avocats et ce que font ces associations. Et je veux parler aussi des associations d'aide aux victimes. Je sais qu'au barreau de Montpellier, par exemple, que je connais assez bien, au barreau de Montpellier, il reste un conflit latent, plus ou moins important selon la personnalité du bâtonnier, entre l'association départementale d'information et d'aide aux victimes et le barreau, qui a le sentiment qu'on fait son travail. Et je pense que, en fait, il y a une complémentarité qui n'est pas suffisamment peut-être réfléchie par les avocats. Et ce n'est pas la défense à proprement parler qu'assurent ces associations, c'est ce que j'appelle de l'accompagnement à l'intelligibilité de la règle de droit. Elles interviennent d'ailleurs le plus souvent auprès des justiciables potentiels les plus désarmés, socialement en tout cas, auprès de ceux qui sont dans la plus grande précarité. Et je pense qu'il faut abandonner d'y voir une concurrence. Toujours concernant l'accompagnement à l'intelligibilité, je prends un autre exemple, peut-être très contesté, mais j'ai découvert assez récemment ce qu'était le droit collaboratif, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans une aide à l'intelligibilité du droit tout court, ou des droits au pluriel. Il n'est pas consacré par les textes en droit français, le droit collaboratif, mais la jurisprudence le reconnaît. Et il s'agit en réalité de quelque chose qui n'est pas, mais que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, qui n'est pas très loin de la médiation, tout en n'étant pas de la médiation, qui est un espèce de partenariat qui s'instaure dans des réunions d'échange entre les avocats des deux parties et les deux parties elles-mêmes, donc dans une compréhension du conflit par des réunions auxquelles participent non pas dans la hargne de l'un envers l'autre, mais dans la recherche d'une solution de l'un avec l'autre, les deux parties et les deux avocats. Il me semble, et je peux me tromper parce que j'ai découvert cela récemment et peut-être que ceux que nous avons auditionnés à la CNCDH étaient un peu partiaux sur le dispositif puisqu'ils revendiquaient toutes ces qualités, et l'exercice collaboratif, semble-t-il, peut quand même participer à une meilleure intelligibilité du droit et favoriser un accès à la justice dépassionné ou dépassionné. Venons-en à l'accès à la justice, justement. Quelques mots du difficile accès à l'état de la procédure pour le justiciable. Il me semble que nous devons prendre exemple, vous, avocats en droit, sauf les avocats en droit administratif, parce que les choses vont déjà beaucoup mieux, mais les juridictions de l'ordre judiciaire devraient prendre exemple sur les juridictions de l'ordre administratif qui ont mis en place des plateformes numériques du type SAGAS, et qui permettent, en tout cas la plateforme SAGAS permet à tout justiciable de savoir à tout moment où en est l'état de la procédure qui est sa procédure, celle qu'il a envie de suivre. Au cœur de... J'évoque cela de façon tout à fait marginale, mais je crois qu'il y a un retard considérable pris par la justice judiciaire à cet égard. Il me semble qu'au cœur du maquis que constitue l'accès à la justice, deux sujets parmi d'autres peuvent légitimement retenir l'attention. D'abord, la remobilisation qui me paraît indispensable des procédures alternatives de résolution des conflits, on est très attaché à la CNCDH, et d'autre part, la réflexion sur l'introduction de l'action de groupe au sens où celle-ci peut faciliter l'accès à la justice et favoriser le respect du droit à l'égalité dans l'accès à la justice. Mais je sais les réserves de nombre d'avocats sur ce sujet de l'action de groupe. J'ai choisi ces deux thèmes. En premier lieu, remobiliser les procédures alternatives de résolution des conflits. Le législateur n'est pas avare, dans nombre de situations, de proposer la médiation. Et les modes doux de résolution des conflits ont sa faveur. Ainsi, le projet de loi relatif à la consommation en cours d'adoption, dans son article 12, rend obligatoire de faire mention de la possibilité de recourir à une médiation comme voie de résolution des litiges dans tous les contrats remis à un consommateur. On doit, semble-t-il, se féliciter d'un tel dispositif. Mais dans les faits, la médiation n'occupe pas la place qu'elle pourrait occuper, peut-être en raison d'un engouement insuffisant des avocats. C'est en tout cas le cas pour la médiation pénale, mais je dois dire que l'engouement des parquets est encore plus faible d'ailleurs que celui des avocats en ce qui concerne la médiation pénale, qui connaît une chute libre depuis 5 ou 6 ans. Mais si l'on prend un exemple plus positif, plus porté par l'époque, prenons l'exemple de la médiation familiale. La médiation familiale, introduite par la loi du 4 mars 2002 dans le Code civil et par celle de 2004, donne la possibilité au juge aux affaires familiales d'enjoindre les parties, vous le savez aussi très bien, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur le déroulement de cette mesure. Nous avons pu constater à la CNCDH, après audition de juges aux affaires familiales et de médiateurs familiaux et aussi d'avocats qui ont compris combien la partie qu'ils défendent peut bénéficier de la médiation familiale, que c'était un dispositif à soutenir, surtout en matière de divorce, dans d'autres domaines du droit de la famille aussi, mais surtout en matière de divorce, qui permet ou qui doit permettre que le magistrat qui a à prendre de lourdes décisions ensuite les prenne alors que ces décisions sont déjà largement préparées et que l'esprit engendré par l'application de la médiation familiale va permettre que ces décisions prises par le juge soient acceptées et pas simplement imposées. Moins connue est l'action de groupe, comme modalité peut-être très nouvelle d'égal accès à la justice et de lutte contre les discriminations. Je vais donc y consacrer quelques instants. L'action de groupe est sur le point d'être introduite en France par le projet que je citais tout à l'heure, le projet relatif à la consommation qui a déjà été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et les deux premiers articles de ce projet créent une procédure d'action de groupe limitée aux droits de la consommation et de la concurrence, mais beaucoup déjà demandent l'élargissement à d'autres pans du droit de la possibilité de l'action de groupe. Parallèlement à la fin de la navette parlementaire sur ce projet de loi relatif à la consommation, citons deux propositions de loi qui vont être examinées au Sénat en première lecture le 19 novembre 2013, donc le 19 novembre prochain, dans quelques jours. La proposition de loi numéro 811 qui vise à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités. Nous venons d'être auditionnés sur cette proposition de loi. Et la proposition de loi numéro 861 qui est relative au pouvoir de saisine du défenseur des droits en matière d'action collective. Dans ces deux propositions de loi, on ne parle pas d'action de groupe, mais on parle d'action collective. Vous savez sans doute que l'histoire de l'action de groupe en France, jusqu'à très récemment, se résumer en des tentatives infructueuses ou avortées. Et l'introduction de l'action de groupe dans notre pays provoque un discours doctrinal nuancé, divers. Pour certains, elle est critiquée dans la mesure où elle permettrait à des tiers de profiter de jugements sur des affaires dans lesquels ils ne sont pas partis. On peut aussi instaurer une action de groupe qui ne fait pas profiter à des tiers qui ne sont pas partis du jugement rendu. Pour les mêmes, elle entraînerait la même dérive qu'aux États-Unis et ne serait pas du tout un instrument de moindre discrimination dans l'accès à la justice. Mais on peut aussi, à l'inverse, indiquer que cette action collective ou action de groupe a déjà fait ses preuves dans un bon nombre de pays en matière de réparation des préjudices collectifs ou de masse, et on peut affirmer donc l'exact contraire, c'est-à-dire que l'intérêt de l'action de groupe comme modalité nouvelle de plus d'égalité dans l'accès à la justice n'est plus à démontrer. En effet, il s'agit de toute façon de renforcer les droits des citoyens et des justiciables dans divers domaines qui touchent directement à leur vie quotidienne, santé, alimentation. Marisol Touraine prépare un texte sur l'action collective en matière de santé, alimentation, environnement, consommation, ou encore lutte contre les discriminations. Je crois donc qu'il est difficile de nier que cette procédure ne constitue pas une avancée en termes d'accès à la justice. Reste tout de même à voir quelle place est laissée précisément aux défenseurs, aux avocats, et si véritablement, par l'action de groupe, non seulement le justiciable, mais aussi son défenseur, a un accès à la justice favorisé. Il est largement temps que je conclue. Si la garde des Sceaux ne vous avait pas tout dit sur l'état de la question de l'aide juridictionnelle, je vous aurais donné des indications un peu précises sur, mais je vais le faire brièvement, sur la lettre que j'ai adressée à la garde des Sceaux immédiatement après avoir été informée de ce que la loi de finances pour l'année 2014 rogner indirectement et même directement le budget de l'aide juridictionnelle, comme si en supprimant le timbre de 35 euros par plaidant, on pouvait parallèlement au fond, diminuer globalement, je n'entrerai pas dans les détails, le budget de l'aide juridictionnelle. La lettre que nous avons adressée à la garde des Sceaux était longue et très argumentée, y compris avec la jurisprudence européenne. Et sachez, vous qui souvent au SAF êtes des avocats qui ne reculent pas devant le plaidant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sachez que nous sommes très attentifs dans cette modeste commission à ce que l'aide juridictionnelle en France, qui est déjà budgétairement beaucoup moins importante que dans la plupart des pays européens, ne soit pas rabotée et qu'on trouve enfin une solution pour que vous soyez rémunérés correctement. J'ai pris des chemins de traverse, et j'en suis bien consciente, pour cheminer devant vous dans la jungle du droit. Ce que je voudrais dire en terminant, c'est que l'accès au droit, je veux le redire, et l'accès à la justice sont des droits fondamentaux, et on peut prendre des exemples dans tous les champs du droit pour illustrer cette idée qu'il s'agit véritablement de droits fondamentaux qui doivent être mieux garantis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je vous remercie.